Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Doper la prime à la conversion et le bonus écologique pour encourager l'achat des véhicules qui s'entassent dans les concessions. Emmanuel Macron va détailler aujourd'hui son plan de relance pour la filière automobile, frappée de plein fouet par la crise sanitaire et économique. Question de souveraineté industrielle, explique l'Élysée.
L'application de traçage Stop Covid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent.
C'est ce qu'a indiqué hier le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Par ailleurs, de nombreuses applications ont été supprimées par Google de sa plateforme Play Store sur les smartphones équipés du système Android, officiellement pour lutter contre les fausses informations. L'Europe, à l'heure du déconfinement, en ordre dispersé, alors que les restaurants et les bars en France attendent de savoir quand ils pourront rouvrir leurs salles. En Allemagne, les propriétaires de bistrots à Berlin manifestaient hier pour ouvrir au plus tôt et suivre leurs collègues restaurateurs.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, ça sera la question du jour. La relocalisation n'a-t-elle que des vertus? On posera la question à Isabelle Méjean. Elle est économiste à l'École Polytechnique et elle vient de recevoir le prix du meilleur jeune économiste décerné par Le Monde et le Cercle des économistes.
C'est un secteur économique aussi symbolique qu'important. Avec 400 000 emplois directs et 500 000 autres indirects en France, la filière automobile va faire l'objet d'un plan de relance spécifique présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron en personne. Le secteur a connu un effondrement des ventes, moins 89% en avril dernier avec l'épidémie de Covid-19. L'exécutif veut donc relancer les achats en renforçant les aides sur les véhicules neufs ou d'occasion. Cap sur le développement des véhicules électriques, sur les batteries pour les équipements. Et dans le même temps, des primes pour favoriser l'achat des modèles essence, voire diesel, les plus récents. Les explications de Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile.
Le bonus écologique, il faut d'abord rappeler très rapidement que c'est un système qui a été mis en place il y a plus de 10 ans maintenant, avec l'idée d'inciter les Français à acheter des voitures qui émettent le moins de CO2 possible. Et à l'époque, même un véhicule diesel bénéficiait de ce bonus écologique. Au fil du temps, les critères ont été resserrés, tant et si bien que seuls les véhicules électriques pouvaient bénéficier d'un bonus écologique avec un montant qui avait été diminué, et les voitures hybrides n'en bénéficiaient plus. Peut-être que là, l'idée, ce serait de nouveau d'élargir aux véhicules hybrides et aussi de remonter le bonus, peut-être jusqu'à 8000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique, ce qui est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui les voitures électriques sont beaucoup plus chères que leurs homologues thermiques et que sans ce dispositif d'aide, personne n'achèterait un véhicule 100% électrique. La réflexion autour de la voiture électrique, elle doit être globale et d'ailleurs on l'a vu en Norvège, qui est le pays le plus avancé en matière d'électrification du parc automobile. Ça a été un ensemble avec des voies réservées, des péages gratuits, des bornes de recharge disposées sur l'ensemble du territoire avec un maillage assez dense. Donc il faut un peu de constance dans les politiques publiques pour changer durablement les choses.
Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, il répondait à Anne-Laure Jumet. Emmanuel Macron qui se rend donc cet après-midi dans une usine de l'équipementier Valeo près du Touquet pour annoncer ce plan pour la filière automobile. Mais avant cela, le chef de l'État doit recevoir ce matin à l'Élysée Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, 3 jours avant le dévoilement du plan d'économie de 2 milliards d'euros du groupe en difficulté dont l'État détient 15% des parts. Une centaine de salariés bloquent déjà le site de Codan en Bretagne, l'un des sites qui serait menacé par les restructurations de la marque aux losanges. Avec le déconfinement et la reprise de l'activité, l'État ne prendra plus en charge intégralement le chômage partiel. Dès lundi prochain, le 1er juin, les entreprises paieront 15% de ce chômage partiel. C'est ce qu'a annoncé le ministère du Travail hier. Édouard Philippe a promis des investissements massifs dans le secteur hospitalier hier à l'ouverture du Ségur de la Santé. Cette grande concertation qui doit durer jusqu'au 15 juillet pour rénover le système de santé en France. Un discours très général et encore des promesses, a déploré le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme. Il aurait aimé davantage de congrès, savoir immédiatement combien l'État met sur la table parce qu'il faut, dit-il, embaucher et augmenter les salaires. Le nombre de malades gravement touchés par le coronavirus et hospitalisés en France en réanimation a continué à baisser hier avec 1609 patients recensés, 46 de moins en 24 heures. Et pour opérer la propagation du coronavirus, l'application de traçage Stop Covid sera disponible dès le week-end prochain si les parlementaires l'approuvent. C'est ce qu'a indiqué hier le secrétaire d'État au numérique. numérique, Cédric O.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutus. Une info, cellule investigation de Radio France. De nombreuses applications ont été supprimées par Google de sa plateforme Play Store sur les smartphones équipés du système Android.
Désormais, toutes celles qui parlent de l'épidémie de Covid-19 sont éliminées officiellement pour lutter contre les fausses informations. Résultat, de nombreuses entreprises sont à l'arrêt depuis plusieurs jours sans comprendre ce qui leur arrive, Jacques Monin.
Il y a quelques jours, l'affaire avait déjà fait un peu de bruit. Podcast Addict, une application de podcast, avait été supprimée de la plateforme Play Store parce qu'elle diffusait des podcasts parlant du Covid-19. Google avait ensuite éteint l'incendie en expliquant qu'il s'agissait d'une erreur. Sauf qu'en creusant, on s'est rendu compte qu'une application de randonnée a elle aussi été évincée parce qu'elle proposait de vérifier qu'on se trouvait bien dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Mais c'est aussi le cas d'une application qui propose des emojis invitant à se laver les mains, et c'est même le cas pour un réseau social pour municipalités. Tous ont reçu ce mail leur disant la même chose, que seules les applications du gouvernement ont désormais le droit de parler du Covid-19. On se retrouve donc devant un paradoxe où d'un côté, le moteur de recherche de Google se nourrit et prospère grâce aux articles qui informent sur l'épidémie, alors que d'un autre côté, sur les smartphones équipés du système Android, seule la parole gouvernementale a désormais droit de citer.
Jacques Monin, dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. Sollicité, Google n'a toujours pas répondu aux questions de la cellule investigation de Radio France. On se souvient de l'énorme couac provoqué par ce texte au sein de la majorité présidentielle. La proposition de loi pour accompagner les familles après le décès d'un enfant est de retour ce soir à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En janvier dernier, les députés marcheurs avaient refusé d'allonger à 12 jours le congé pour la perte d'un enfant mineur. Le Sénat, dominé par la droite, a depuis remis l'ouvrage sur le métier, adopté à l'unanimité en mars, un texte enrichi par rapport à la version initiale. Le gouvernement, qui a reconnu une erreur collective, a également fait des gestes, Anne Fauquemberg.
Au lieu des 12 jours demandés initialement, les sénateurs sont montés jusqu'à 15, dont 8 fractionnables et liés à la création d'un congé de deuil pour la perte d'un enfant de moins de 25 ans. Un texte qui prévoit également des dispositions financières comme le maintien des prestations familiales pendant quelques mois après le décès et une allocation forfaitaire pour aider par exemple à payer les obsèques. 7500 familles seraient concernées par la perte d'un enfant chaque année et grâce au loupé du mois de janvier, le député Bricou obtient un texte maximaliste.
Quand je l'ai proposé, c'était dans le cadre des niches, et il faut savoir qu'un député ne peut pas proposer une loi qui entraîne des dépenses supplémentaires sans trouver les recettes correspondantes. Donc je ne pouvais pas être aussi généreux que la loi l'est maintenant. Elle l'est plus parce que le gouvernement est monté au créneau et le gouvernement a accepté certaines dispositions que moi j'aurais pas pu proposer au départ.
Pour les associations d'aide au deuil, le texte est aussi innovant car il propose d'expérimenter un parcours de soins à destination des parents et de la fratrie. Un parcours à définir mais qui pourrait aider toute la société après le Covid-19, estime Marie Tournigan. Elle est la présidente de l'association Empreinte.
On n'a pas de dispositif clair, lisible sur les connaissances des uns et des autres et la légitimité à intervenir sur le sujet. C'est pour ça que nous, on prône un cadre déontologique et aussi un système de labellisation qui puisse dire « cette personne-là, elle est capable d'orienter, donc c'est un accompagnant de deuil ». Et c'est un métier.
Ce soir, le groupe LREM prévoit aussi de mettre au vote une proposition de résolution afin que les enfants de soignants morts du coronavirus soient reconnus comme pupilles de la nation.
Et cette résolution portée par le député de la majorité François Jolivet ne sera pas contraignante. La pandémie qui continue à faire des ravages en Amérique latine, son nouvel épicentre selon l'OMS, le Brésil est particulièrement frappé avec plus de 22 600 morts dénombrés. Alors que la barre des 100 000 morts doit être atteinte cette semaine aux États-Unis, pays le plus endeuillé de la planète en valeur absolue. Les drapeaux ont été mis en berne pour 3 jours. La pandémie qui apparaît sous contrôle en Europe, l'Allemagne a tout de même enregistré hier 432 cas de plus que la veille. Il n'empêche, à Berlin, les restaurants ont rouvert depuis le 15 mai, mais pas les bars. Et c'est une injustice, disent les propriétaires des bistrots à Berlin. Ils manifestaient hier pour obtenir l'autorisation de rouvrir aussi vite que possible. Le reportage de Ludovic Piétenu dans un quartier de l'ouest de Berlin, à Spandau.
On pourrait parler d'un pub, les Allemands appellent ça un Kneipe. Cela veut dire un lieu où l'on est entassé, une chose qui ne va pas bien avec le coronavirus. Il y en a près de 500 à Berlin, ce sont des bistrots de quartier, fréquentés par des habitués comme Michael, 62 ans.
Ça fait partie de notre culture, l'Allemagne c'est la bonne bière, et le contact entre les gens. Ce que je veux dire, c'est que ce contact social nous manque. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot de dépression pour certains, mais nous sommes tous très tristes.
Catherine, qui gère ce bar, le Klinkenstuben, parle d'injustice. Il vous suffit de servir un peu à manger, s'agace-t-elle, et vous avez le droit de rouvrir.
Beaucoup pensent que les gens boivent trop, et quand ils ont trop bu, qu'ils se rapprochent les uns des autres, ce qui n'est pas le cas. Je pense que par les temps qui courent, on peut tous faire attention, et moi, en tant que propriétaire, je suis vigilante et j'en ai surtout.
C'est une difficulté que connaît l'Allemagne dans cette phase de déconfinement. Par rapport à certains de ses voisins, le pays a commencé tôt, mais il y va pas à pas et le mécontentement grandit. Certaines situations sont comme ici jugées injustes, d'autant plus dans un pays où les règles ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. À seulement 5 km du bar de Catherine, dans la région du Brandebourg, les Kneipe sont ouverts.
Le reportage de Ludovic Piétenu en Allemagne pour France Culture. Retour en France avec cette question. Les chasseurs vont-ils reprendre leurs fusils dès la semaine prochaine? C'est en tout cas la crainte des associations de défense de la nature et des animaux. Ils ont lancé une pétition qui a recueilli plus de 65 000 signatures. La cohabitation entre chasseurs et vacanciers et français déconfinés s'annonce compliquée, voire dangereuse, estime Pierre Athanase, l'un des initiateurs de cette pétition.
Dès le 1er juin et pendant tout l'été et jusqu'à l'ouverture générale en septembre et là jusqu'à février, les chasseurs vont pouvoir tirer des chevreuils et des sangliers pour commencer, puis tout le reste du gibier ensuite. Ce qui veut dire que les campagnes vont être occupées à nouveau par les chasseurs, et alors que les gens qui ont subi 2 mois de confinement aspirent de plus en plus à être dans la nature, on sait que cet été les gens vont se rabattre sur la campagne apparemment, et ben vont être confronté à des tirs à balles en plus. C'est vraiment du gros gibier qui va être tiré pendant l'été, donc des tirs qui sont très très dangereux. Donc il y a ça, et puis c'est l'impact sur la faune sauvage. Une faune dont on sait qu'elle est en péril, dont tout le monde nous dit qu'il faut faire attention à la biodiversité, et qu'on laisse aux chasseurs par pur clientélisme, par calcul électoral certainement, alors que toutes les décisions sont prises en retard actuellement suite à la crise sanitaire. On attend des dossiers de mise en protection de réserves naturelles, de choses comme ça. Tout est bloqué et pour les chasseurs, il y a des passe-droits qui sont absolument inadmissibles.
Pierre Athanase, président de l'association Nature Rewilding France, au micro de Véronique Rebérotte. Le temps de ce mardi 26 mai, toujours ensoleillé. Au meilleur de la journée, il fera 22 degrés à Strasbourg, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Ajaccio, 26 à Lille, Paris et Marseille, 27 degrés à Nantes, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu.